Donc, je vais simplement introduire pour incarner ce fameux personnage de Paul. Voilà, Paul, on le met à beaucoup de sauces. Voilà, il me semble important de reprendre dans la vie de Paul comment lui a vécu la rencontre avec le Christ. Donc, Paul était de Tarse, il est venu à Jérusalem pour vraiment avoir un enseignement auprès de Gamaliel très approfondi, et c'est donc un homme d'une foi totale. C'est-à-dire que Dieu, pour lui, c'est vraiment le tout de sa vie. Et en bon juif, et je le dis véritablement, l'honneur pour lui de Dieu est quelque chose de capital. Or, pour lui, Dieu ne peut pas être confondu ou n'est plus présent dans une personne humiliée, écrasée. Celui qui... La sainteté de Dieu se dit face à quelqu'un de vivant, les prophètes, Moïse, etc. Mais d'imaginer que la sainteté de Dieu est à voir, d'une manière ou d'une autre, avec cet homme qui a fini sur la croix de façon complètement dénaturée, pour lui c'était impossible. Et donc pour lui c'était clairement du blasphème, c'était une atteinte à l'honneur même de Dieu. Et donc Paul va prendre l'initiative de pourchasser les chrétiens. Et ce qui va lui arriver sur le chemin de Damas, c'est qu'il va entendre, comme il est amoureux de Dieu, il va reconnaître cette voix qui lui parle. Or, cette voix qui lui parle va s'associer à ceux qu'il pourchasse. Pourquoi me persécutes-tu ? Et tout d'un coup, Paul réalise que dans cet homme crucifié, c'était l'action de Dieu, tant attendue par le peuple, qui se manifestait. Alors, pas que dans la crucifixion, mais dans tout le parcours de Jésus, y compris la persécution. Et là, pour Paul, c'est un arrêt de mort. Le texte le dit dans les Actes des Apôtres, il se retrouve aveugle, pendant 3 jours, il ne mange plus, il ne boit plus, il est... parce qu'il réalise que lui qui voulait absolument préserver Dieu de tout blasphème, c'est lui qui est en train de blasphémer. C'est lui qui est en train de contrer l'action tant attendue de Dieu. Et pire que ça, pour un juif, il a été soit l'acteur, soit celui qui a permis la mise à mort d'innocents. Et ça, il n'y a pas plus grave péché dans le judaïsme. Tu ne tueras pas. Voilà. Sauf en cas de blasphème. Mais voilà, quand il réalise que le blasphémateur, c'est lui, donc c'est l'anéantissement pour Paul. Et là, vous voyez peut-être pourquoi pour Paul aussi, en tant que juif, le péché, c'est exactement ça. Vraiment, tout son être était tendu vers la reconnaissance de Dieu. Et il se rend compte qu'alors que tout son être était tendu là, il se retrouve exactement à l'opposé, comme celui qui devient ennemi de Dieu. Et donc il découvre combien le péché, c'est ce qu'il va dire dans les Romains, « Je fais ce que je ne voulais pas faire et ce que je veux faire, je ne le fais pas. » C'est-à-dire, ça va au-delà. C'est un aveuglement. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un aveuglement. Le deuxième choc de Paul, c'est qu'alors que lui est anéanti et qu'il ne pense plus avoir d'avenir, un frère va venir le voir. Voilà, et lui dire, « Mon frère, Dieu t'appelle. » Et que Dieu l'appelle C'est la grâce, quoi. C'est le deuxième choc de la grâce. Que Dieu l'appelle, lui qui avait tout pour comprendre ce que Dieu était en train de faire et qui s'est opposé de toutes ses forces à ce que Dieu était en train de faire. Voilà, donc Paul, il part toujours de là et il va toujours ramener fondamentalement. Et du coup, ça fait comprendre pourquoi pour Paul, si lui, en tant que juif, qui avait tout pour comprendre, pour entendre, en est arrivé là, on ne peut pas demander aux païens un autre chemin que celui de recevoir cette grâce incroyable que lui-même a reçue quand Dieu l'a réappelé. Et deuxième élément, concernant la lettre aux Romains, particulièrement. Pendant longtemps, on a dit que c'était que Paul, ne connaissant pas les Romains, il a voulu faire une somme théologique pour présenter sa pensée. Mais Paul est toujours quelqu'un de très pragmatique, de pasteur profondément. Or, ce qui s'est passé dans la communauté de Rome, c'est qu'en 49, Claude a expulsé tous les Juifs. On le sait par Suétone qui dit, il y avait du remous à propos d'un certain Christos. Donc, vraisemblablement, la question de Jésus, Messie ou pas, remuait la communauté juive. Il n'a pas cherché plus, il a expulsé l'ensemble des Juifs de Rome. C'est comme ça que Priscille et Aquilas se retrouvent à Corinthe alors qu'ils sont Romains. Et pendant 5 ans, à Rome, ne grandit qu'une communauté pagano-chrétienne. C'est-à-dire, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus que des païens chrétiens. Quand les Juifs reviennent, la grande question, c'est est-ce qu'il va y avoir 2 lieux séparés ? Est-ce que les 2 communautés vont pouvoir vivre ensemble ? Et en fait, c'est la grande question des Romains. C'est-à-dire que Paul va vraiment travailler cette question. Et donc, c'est le début du texte que vous avez. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Donc, vous entendez cette honte. C'est d'ailleurs étonnant, ça résonne avec la Genèse. Parce qu'il a eu honte du crucifié. Voilà. Mais pour Paul, vraiment, c'est maintenant, il découvre que Dieu est allé jusque-là pour habiter notre perversité, pour habiter tous nos détournements, toutes nos violences, que Dieu est allé jusque-là. Et donc, je n'ai pas honte de l'Évangile, il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord et du grec. Donc il va partir de cette... pour lui, source profonde qui dit qui est Dieu et qui est son intervention au travers de Jésus. Donc je continue à lire le texte. C'est en lui, en effet, que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Vous me direz, j'ai la même traduction que vous. Vous me faites signe si jamais... Selon qu'il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelle puissance et divinité, sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Ils sont donc inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté, où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Les hommes de même, abandonnant les rapports naturels avec les femmes, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, commettant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne le juste salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence sans jugement. Ainsi font-ils ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de cupidité, de méchanceté, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de dépravation, diffamateurs, médisants, ennemis de Dieu, provocateurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié. Bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles actions, ils ne se bornent pas à les accomplir, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Tu es donc inexcusable, toi, qui que tu sois, qui juge. Car, en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant, toi qui juges. Or, nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité contre ceux qui commettent de telles actions. Penses-tu, toi qui juges ceux qui les commettent et qui agis comme eux, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, sans reconnaître que cette bonté te pousse à la conversion? C'est du Paul, bien radical. Donc, je vais reprendre les choses. D'abord, en redisant que à qui s'adresse Paul? Il s'adresse vraiment à tous. Là, à tous. Aux Juifs en premier, c'est ce qu'il a dit. Aux Juifs d'abord, puis du Grec. Et ensuite, c'est en lui, Jésus, en effet, que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, « Celui qui est juste par la foi vivra. » On avait un échange ce matin, parce que l'autre texte du jour est celui des Galates, et on peut dire « par la foi du Christ ». Voilà, nous sommes entraînés par la foi du Christ, et c'est ce qui nous réajuste, ce qui nous rend juste. Cette révélation de Dieu au travers de celui qui a donné sa vie jusqu'au bout et qui est ressuscité, bien entendu. Donc, à partir de là, il va dire, en effet, il va s'expliquer, en effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice. Vous voyez que les deux sont liés. Tout ce qui détourne du lien avec Dieu et tout ce qui crée du coup des ajustements mortels ou qui, voilà, mortifères, merci, les uns avec les autres. Des hommes, donc vous entendez bien toujours que c'est la généralisation, hein, des hommes, et alors c'est très très fort, qui retiennent la vérité captive de l'injustice, c'est-à-dire de leur manière de vivre les relations, à la fois avec Dieu et à la fois les uns avec les autres. mais c'est très fort, mettre en prison la vérité, enfin retenir la vérité captive. Alors, avant de... Enfin si, il faut juste que je continue. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste, Dieu le leur a manifesté. Donc vous voyez, le Dieu dont il parle, c'est un Dieu qui ne se cache pas. C'est pas un Dieu ésotérique. Dieu s'est de tout temps manifesté, que ce soit au peuple choisi, les Juifs, ou que ce soit aux Grecs. Et ça, dans les Actes des Apôtres, on va retrouver ça de manière très très forte. En effet, depuis la création du monde, ces perfections invisibles, éternelle puissance et divinité, sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence, c'est-à-dire quand on discerne. Ils sont donc inexcusables, tous. Voilà, il part de là. Alors, avant d'entrer dans les différentes catégories, je vais tout de suite répondre à la question pourquoi la question de l'homosexualité est ainsi développée, de la pratique homosexuelle de l'époque. Dans le judaïsme, il y a très peu de choses. Il y a effectivement dans le Lévitique, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Mais sinon, vous avez... c'est pas quelque chose qui occupe la pensée du judaïsme. Et une des choses qui a beaucoup interpellé les exégètes, c'est, vous connaissez l'histoire de David et Jonathan, ou David et Saül, où effectivement, dans l'amitié que porte Saül à David, ou que porte Jonathan à Saül, vous avez des termes qui sont utilisés, qui sont des termes qui ont des connotations sexuelles. Mais le texte ne s'intéresse pas à savoir si oui ou non, je vais être cru, il y a eu des relations sexuelles entre Jonathan et David, ou Saül et David. Cela ne l'intéresse pas. Donc vous voyez, la question de la pratique homosexuelle, elle n'intéresse pas les textes, si on peut le dire comme ça. Et dans les textes de Sodome et Gomorre, ce qui est visé, c'est l'atteinte et l'humiliation. Donc j'en arrive là à pourquoi. Excusez-moi, je vais y revenir pour Sodome et Gomorre, mais je fais un petit détour par les Grecs et les Romains, pour lesquels la pratique homosexuelle et la pratique hétérosexuelle, on ne s'arrêtait pas tellement. Voilà, les deux étaient vécus. Mais, ce qui était avilissant, et alors on a des textes qui sont terribles, c'est dans une relation homosexuelle d'être le partenaire passif. Et alors là, vous avez des quolibets terribles. On ne peut pas être quelqu'un de la société libre. Pour les esclaves, il n'y a pas de problème. Eux, de toute façon, ils font pas partie de l'humanité au sens fort du terme. Donc pour des hommes libres, vous pouvez avoir une pratique homosexuelle à condition d'être le partenaire actif. Si vous êtes le partenaire passif, c'est vraiment de l'avilissement. Donc Paul va utiliser un terme sur lequel tout le monde est d'accord, sauf que lui, il va généraliser, il ne va pas faire la distinction. Je ne sais pas si vous savez que c'est pour ça. Alors, du côté grec, c'était accepté tant que... Un homme était adolescent, il n'était pas encore vraiment homme. Donc, l'avilissement n'était pas pour les adolescents. Mais c'est pour ça qu'on se rasait au maximum pour être le plus longtemps possible considéré comme un berbe, encore adolescent, et ne pas tomber sous le coup de ces colibrés et de cet avilissement. Donc, je pense que c'est pour cela que Paul va utiliser cela. Parce que avilissement parle à tout le monde. Mais lui, il va radicaliser. il va pas dire que l'avilissement n'est que pour le partenaire passif. Et vous voyez qu'on peut lire comme ça aussi le texte de Lévitique, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est-à-dire tu avilis le partenaire, il n'est plus un homme, et qu'on peut entendre ça dans Sodome et Gomorre, où c'est la question de l'hospitalité qui est en cause, mais vouloir sodomiser, puisque c'est devenu le terme, un homme, c'est l'humiliation la plus complète. C'est-à-dire, vous lui enlevez toute sa dignité. C'est ça qui est en cause. Ce qui est intéressant, je le dis tout de suite, parce qu'on peut l'entendre aujourd'hui où l'homosexualité est vécue de manière très, très diverse, et ce dont on parle n'est plus ce qui était vécu à l'époque. Quand on parle d'une relation de couple stable, où le respect entre l'un et l'autre et la dignité de l'autre, de l'un comme de l'autre, est vraiment recherchée, on n'est plus dans le même cas que dit Paul. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut élargir ce qu'il dit de l'homosexualité, on pourrait le prendre aussi de l'hétérosexualité, c'est-à-dire quand dans une relation j'en profite pour abaisser l'autre, pour avilir l'autre, il y a quelque chose de l'injustice et de retenir la vérité captive. Voilà, donc je crois vraiment que pour Paul, c'est ça qui est capital. Et donc on va le reprendre dans les autres exemples, puisque ce n'est pas le seul exemple. Le premier, ça va être connaissant Dieu. Donc pour peu qu'ils discernent, qu'ils mettent leur intelligence en activité, ils peuvent connaître Dieu qui se manifeste au travers de la création, au travers de ses œuvres incomparables. Donc connaissant Dieu, ils ne lui ont pas rendu ni la gloire. La gloire, c'est le poids de vérité. Pourrait traduire comme ça. Ils n'ont pas reconnu là le poids de vérité qui était devant leurs yeux, ni l'action de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance, si on prolonge, que la vie nous vient d'un autre. Ils sont donc, qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leurs vains raisonnements. Donc là, vous entendez déjà la boussole, hein, des raisonnements qui tournent dans tous les sens et qui sont creux. La vanité, ce qui est du vent, c'est l'exact inverse de la gloire, ce qui a du poids et ce qui compte. Et leur cœur insensé est devenu la proie aux ténèbres. Donc ça, c'est pour tous les hommes. Et vous réentendez cette vérité captive. Ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement. Ils avaient la gloire de Dieu devant leur... Donc ce qui a du poids dans la vie. Et ils ont préféré partir dans des raisonnements creux, on pourrait le dire comme ça. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Et c'est là où vous avez le premier. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des idoles, des images représentant l'homme corruptible. Et là, c'est ce qui est fondamental pour Paul. Donc, ils troquent Dieu et ils mettent l'homme à sa place. Un marché de dupes. Ça va jusque-là ? C'est pourquoi Dieu les a livrés. Alors là, chez Paul, pour Pharaon, il faudrait prendre plus de temps, mais chez Paul, c'est vraiment Dieu les a laissés faire. on pourrait s'attendre que Dieu arrête les choses, intervienne. Or Dieu n'est pas intervenu, n'intervient pas. Et on touche, comme dans la Genèse, à la question de la liberté. Voilà. Dieu n'est pas arrivé devant Ève en disant surtout pas. Il va aller encore plus fort d'ailleurs, parce qu'à la fin du chapitre de je ne sais plus lequel, dans Romains, il va dire Dieu, je crois que c'est 11, il a enfermé tous les hommes dans le péché. Voilà. Donc on peut se dire, mais est-ce que ça veut dire que Dieu a fait exprès? Mais Paul veut dire par là, il nous a laissés et nous sommes enfermés. Voilà. C'est ce qu'il a vécu lui-même, Paul. Je vous le rappelais. Donc ici, je crois vraiment qu'on peut entendre Dieu les a livrés, c'est-à-dire qu'il les a laissés à cette folie, par les convoitises de leur cœur, à l'impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Et vous voyez que la première fois où arrive avilis, ce n'est pas par rapport à l'homosexualité, c'est en général par rapport à cette manière d'avoir troqué ce qui a du poids et d'avoir mis au cœur du monde leur propre raisonnement d'homme et de femme. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Vous voyez, ce sont des termes très forts. Adorer et servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et vous avez cité effectivement Ignace de Loyola, l'homme est fait pour servir, et vous voyez que c'est l'exact contre-pied. Donc jusque-là, vous n'avez absolument rien par rapport à l'homosexualité. C'est tous les hommes. Alors, je passe rapidement, parce qu'on en a parlé un peu, sur la question de l'homosexualité. Je vous redis, c'est parce que l'avilissement résonne absolument, puisque dans le contexte, je vous le redis encore, lorsqu'un homme avait une attitude passive dans la sexualité homosexuelle, il n'était plus un homme. Alors, pour les femmes, effectivement. Alors, vous avez noté leur femme. C'est très étonnant, et il commence par ça. Et on se dit, est-ce qu'il n'y a que l'homosexualité qui est par derrière? On ne sait pas. Parce que la phrase est un peu différente. Hein. Abandonnant les rapports naturels. Elles ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Alors, ce que l'on sait culturellement, c'est que l'homosexualité féminine était une homosexualité revendicatrice. Voilà. Comme les hommes se passaient des femmes, non pas dans la sexualité, mais dans la vie sociale, les femmes ne comptaient quasiment pour rien, si ce n'est dans les sphères de l'empereur, hein, dans la famille de l'empereur, mais sinon les femmes n'avaient pas de place. C'était une manière de revendiquer leur autonomie. Voilà, nous n'avons pas besoin de vous. Et nous faisons une société parallèle. Donc, ce qui est aussi intéressant. Donc je continue. On en arrive au verset 29. Il, c'est l'ensemble, sont remplis de toutes sortes, il ressort du cas concret, hein, ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, donc on entend bien ce qui était dit au début, ils retiennent la vérité captive de l'injustice, de perversité, de cupidité, de méchanceté, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de dépravation, diffamateurs, médisants, et au cœur de cette liste, vous avez ennemis de Dieu, Et on continue, on reprend, provocateur, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. C'est-à-dire en coupure par rapport à leur origine. Donc vous voyez, il y a une lecture qui est très agréable, qui est de se dire, ah ben ça, c'est, ça concerne vraiment les homosexuels. Excusez-moi, mais c'est dur. J'en souris, mais c'est dur. Mais c'est une manière de se dire, on ne parle pas de moi là. Mais si vous prenez le texte au sérieux, on parle bien de tous les hommes. Et quand vous prenez cette liste, c'est difficile de ne pas se sentir rejoint à un moment donné ou à un autre, si on le prend au sérieux. Et pour lui, il n'y a pas de hiérarchie dans ce qu'il est en train de dire. Tout démontre ce qui est au cœur, c'est-à-dire que profondément, nous sommes ennemis de Dieu. Et je vous le rappelle, Paul était persuadé qu'il était quelqu'un qui luttait pour la sainteté de Dieu, et il s'est rendu compte que même dans cette lutte-là, il était devenu ennemi de Dieu.
Il a fait de son cas personnel une généralité.
Il a réalisé que le péché prenait tout le monde. Alors on va aller jusqu'au bout du texte. Mais que finalement ce péché aveugle, ce point aveugle qu'on ne voit pas, tout le monde, si on le regarde de près, d'un peu près, tout le monde le vit. Tout le monde a ses points aveugles. Voilà. Alors c'est toujours bien beau de voir, vous savez, c'est l'histoire de la paille et de la poutre, hein. Voilà, c'est bien beau d'aller voir chez l'autre, mais le problème de Paul, c'est d'essayer de mettre le doigt sur les points aveugles. Et du coup, ce qu'il va dire, c'est que ce trop-plein, qui est en même temps ce trop-plein de mensonges, à certains moments il l'a dit, de convoitise, ou de légèreté, de ne plus avoir de sens, met en valeur des manques cruels, sans intelligence, sans loyauté, sans cœur. Et le cœur, c'est le lieu qui fait le lien entre l'intelligence et les tripes, enfin nos émotions. Et du coup, c'est de là que partent nos véritables choix. Comme si on n'avait plus de lieu pour choisir, d'où pouvaient partir de véritables choix, qui ne soient pas des choix sans boussole, mais qui soient des choix pour faire vivre. Et sans pitié. Donc c'est la forme forte de l'amour, de cet amour qui désire que l'autre vive, quoi qu'il ait vécu, qui qu'il soit. Donc vous voyez qu'on peut aussi, voilà, on pourrait aussi s'arrêter là-dessus en parlant de notre société. Plein, 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 sans, des manques cruels. Et j'en arrive donc, bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant digne de mort ceux qui connaissent de telles actions, ils ne se bornent pas à les accomplir, mais ils approuvent encore ceux qui le commettent. Donc c'est vraiment l'ensemble des hommes. On se justifie les uns avec les autres pour dire qu'on a bien raison. Voilà. Et quand on trouve qu'on a raison contre d'autres, c'est encore plus fort. Et c'est là qu'on en arrive au troisième « c'est pourquoi ». Et je vous assure qu'en tant que bibliste, on a été scotché quand on a lu le texte de près et qu'on s'est rendu compte que, contrairement aux traductions, c'est la même articulation. C'est pourquoi tu, et vous avez tout à fait raison, on passe du « ils sont inexcusables, tous les hommes » à « tu es inexcusable ». Donc tout d'un coup, alors c'est très intéressant littérairement. parce que vous avez pu décrocher en disant Paul est en train de parler d'autre. C'est souvent ce qu'on fait par rapport à la loi. Hein. Quand on lit la liste au verset 29, ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité. Non, moi je ne suis pas perverse. De cupidité, ça va. De méchanceté, bon, on passe un peu rapidement. Peut-être que c'est moi, mais voilà. Plein d'envie, c'est un peu vrai. Mais vous voyez qu'on peut en prendre et en laisser. Et donc on peut entendre le texte petit à petit en se disant finalement ça parle plus d'autres que de moi. Voilà. Moi j'y suis un peu, mais juste à la limite là. Et le tu vient tout d'un coup réveiller le lecteur. Cette fois-ci, je ne peux plus dire il s'agit peut-être d'autres. C'est pourquoi tu es inexcusable, toi, qui que tu sois, juif ou grec, qui que tu sois, homosexuel, hétérosexuel, qui que tu sois, qui juge, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant, toi qui juges. Et je crois qu'il faut prendre là au sérieux ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il a vécu dans sa chair. C'est qu'il s'est rendu compte que, en fait, inconsciemment, en tant que juif, avec la loi et la parole de Dieu, il avait troqué la place de Dieu juge et qu'il s'y était mis, lui. Et c'est le même mouvement, c'est là où il est très fort. Il dit c'est exactement le même mouvement que celui de l'idolâtrie. Voilà, sauf que je ne mets pas un animal ou je ne sais pas trop quoi, je me mets moi à la place de l'idole, à la place de Dieu. Et donc pour lui, c'est exactement ce mouvement d'être au fond ennemi de Dieu parce qu'on ne supporte pas, là on pourrait reprendre Genèse, le fait de ne pas être Dieu. Voilà. J'aimerais tout comprendre, j'aimerais pouvoir tout maîtriser, comme je suppose que Dieu l'est. J'aimerais être puissant, comme je suppose que Dieu est puissant. En fait, quand vous lisez les textes des prophètes, l'idolâtrie, c'est faire de Dieu le prolongement de ce que je suis. C'est exactement ça le fond de l'idolâtrie. Et nous sommes tous idolâtres. Dès que j'ai compris un peu quelque chose de Dieu, je risque de dire aux autres, voilà qui est Dieu. Or, je n'ai compris, on le disait hier, qu'une petite, un tout petit bout. Et je n'ai jamais fini de comprendre. Et personne ne pourra parler, au sens fort du terme, au nom de Dieu. Si ce n'est le Fils, si ce n'est Jésus.
Cette construction de il au tu, oui. C'est un peu la même construction lorsque Nathan va oui. voir le roi David.
C'est tout à fait juste.
Il raconte toute une histoire, la brebis, la petite
brebis, oui, oui. D'un riche qui va prendre la seule brebis de son voisin alors qu'il en a plein.
Qui va mettre le roi David en
cet colère. Homme, c'est toi. C'est toi. Vous avez tout à fait raison.
C'est toi, c'est la même
construction. C'est exactement ça. Et du coup, vous entendez que ce texte, c'est un texte théologique qui vient parler de l'idolâtrie. Et non pas du tout un texte moral, comme on en fait, qui vient parler des bonnes pratiques sexuelles ou des mauvaises pratiques sexuelles. Ce n'est pas du tout le but de Paul. Et si on l'entend comme ça, c'est que... C'est d'ailleurs un texte qui est passionnant et qu'on devrait lire tous pour nos pratiques sexuelles. Voilà, je le redis encore. C'est-à-dire, laisser profondément l'autre dans sa dignité. Et Dieu sait que ce n'est pas évident, dans un corps à corps de la sexualité, de ne pas utiliser l'autre. Et d'être dans une vraie relation de liberté, de dialogue, de... Bon, c'est tout un programme. Et je le redis, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel. tout un chemin. Mais vous pouvez aussi entendre par derrière, parce que je vous disais que la préoccupation de Paul, c'était aussi que les juifs et les païens, les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens puissent se reconnaître. Vous voyez qu'on peut l'entendre aussi comme ça, c'est-à-dire attention, ne ridiculise pas ou ne mets pas en seconde zone l'autre. Les judéo-chrétiens peuvent avoir un regard condescendant sur les pagano-chrétiens, ou les pagano-chrétiens un regard condescendant sur les judéo-chrétiens, en disant finalement c'est nous qui sommes l'aboutissement. Vous n'êtes que la préparation. Enfin, je le dis un peu rapidement. Donc, il y a ça aussi chez Paul. C'est-à-dire, ce n'est pas que personnel, c'est aussi profondément dans les groupes humains qu'on peut avoir cette manière de détrôner Dieu, de troquer Dieu, de le faire descendre de sa place de celui qui donne la vie, qui impulse la vie à tous, et de me mettre, moi, à juger. Voilà, toutes les guerres de religion sont parties de là. Hein. Moi, protestant, Dieu sait que je suis moins idolâtre que vous, sale catholique. C'est bien parti de là. Et il y a chez Paul, ça va jusque-là, c'est-à-dire, fondamentalement, je n'ai pas le droit de juger dans le sens dévaloriser, condamner. Ce droit-là, ce n'est que Dieu. Et alors, c'est là où vous avez bien vu la fin. Alors, c'est moi qui vous arrête aussi le texte là-dessus, parce que j'avais envie qu'on s'arrête là-dessus. Penses-tu, toi qui juges ceux qui commettent, qui les commettent, et qui agis comme eux ? Vous voyez que c'est fort, hein ? C'est-à-dire, toi, bon juif, tu es devenu idolâtre. Tu es comme les idolâtres. Que tu méprises et que tu... C'est ce qu'a vécu Paul. C'est exactement ce qu'a vécu Paul. Voilà, méprises-tu la richesse de sa bonté ? C'est le salut, c'est-à-dire que Dieu, en fait, en Jésus-Christ, nous a bien révélé que son intention n'était pas d'écraser qui que ce soit, mais de sauver. Voilà. Est-ce que tu méprises cela ? Est-ce que tu méprises cette révélation qu'a apporté le Christ ? Est-ce que toi, tu vas remettre une idole, un Dieu qui juge, au centre de tout ? Qui plus est, ce Dieu qui juge, c'est toi-même. C'est tes propres normes et tes propres jugements. Est-ce que tu méprises à ce point-là la révélation en Jésus-Christ, donc la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, sans reconnaître que cette bonté te pousse à la conversion. Et là, quand il parle de conversion, c'est vraiment le radical. C'est-à-dire, fondamentalement, laisser Dieu être juge. Et moi, savoir que je suis repêchée par Dieu. Dans toutes ces manières dont sans cesse je vais me remettre au centre, d'une manière ou d'une autre, de manière religieuse ou de manière non religieuse. Et que sans cesse Dieu me recherche là. Et sans cesse Dieu vient me sauver là. Et je terminerai peut-être sur ce que je trouve une des plus belles confessions de foi dans les évangiles. Dieu va travailler avec le père d'un enfant qui est sur la foi, c'est du pouvoir. Fais sortir ce démon de mon enfant. Et où Jésus va peu à peu entrer en dialogue avec ce père et non plus parler de force, mais de la foi. Et le père va finir par dire « Je crois ». Viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire, la foi, je ne la trouve pas en moi. C'est vraiment Dieu qui peut me permettre de lâcher prise, d'accepter tout ce que je ne peux pas faire seul, et de m'appuyer sur lui pour devenir un parmi les autres. Et pour retrouver cette justesse de relation, que ce soit avec Dieu ou que ce soit avec les autres. Voilà, je vais m'arrêter là pour...